Donc, on arrive à cette dernière table ronde sur effectivement la question de l'accompagnement, et on voit qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, quelles conséquences et quels besoins des mineurs victimes et de leurs familles ? Je vais reprendre le schéma qu'on avait mis au tout début et ce qu'on a mis effectivement dans le rapport pour bien remontrer cette question de continuité. Et que c'est pas à partir de la prostitution qu'il faut s'intéresser aux mineurs et à sa famille, c'est aussi bien avant, et de pouvoir dire que finalement donc ces jeunes qui sont déjà, et Martine Balançon l'utilisait tout à l'heure, le terme de trauma complexe, donc je vais pas vous faire un cours de psychologie maintenant tout de suite, mais c'est toute cette difficulté justement, comme je vous disais, de représentation de soi et des autres, qui va être parasité. C'est clairement, j'ai d'autres lunettes que moi, celles que je vais pouvoir avoir, et donc je vais regarder le monde et je vais me regarder avec des lunettes de traumatisme multiple. Ce qui fait que là, quand on parlait de, en introduction, je vous parlais d'extrême, c'est vraiment l'extrême. Donc on a des jeunes qui effectivement vont très mal, mais ça je ne vous apprends rien. Et donc là, on va avoir vraiment, enfin, cette question de quand je dis qu'ils vont très mal, c'est à la fois tant, et je repense à Charlotte, sur la question du corps, donc au niveau somatique, au niveau psychologique, au niveau relationnel, au niveau scolaire, bien évidemment, et ça va englober finalement toute leur vie, d'où la difficulté après de pouvoir effectivement les raccrocher. Je passe vite sur ça, mais parce que je pense que c'est vraiment important, vous pourrez relire bien évidemment le rapport. S'attarder quand même un peu plus sur la question des parents et de la fratrie, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, pas souvent. Et les discours des parents et des familles a été vraiment assez aussi là de l'extrême, hein, clairement. On parle de confrontation à la mort en termes psychologiques sur la question du trauma. Là, on est vraiment dans une mort lente, comme m'a dit une maman. Donc, confrontation à des événements effectivement potentiellement traumatiques. On se retrouve avec des parents qui peuvent être dans une position d'enquêteur, qui sont confrontés à des images, qui éprouvent bien évidemment une multitude de sentiments. Le sentiment d'impuissance et de solitude est effectivement extrême. On insiste, oui, sur cette question de fluctuation majeure dans le lien de leur enfant, et Hélène en parlera tout à l'heure avec la question des professionnels, on en a parlé déjà. Mais c'est ça qui est le plus dur et le plus usant. C'est des jeunes qui vont mal, et on le disait aussi tout à l'heure, qui n'ont plus confiance forcément dans l'adulte, dans l'autre d'ailleurs, de manière générale. Donc on va avoir là des parents qui vont être sollicités dans l'urgence. Viens me chercher, je suis en danger. Et donc le parent, en tant que bon parent, va juste être mobilisé et se dire, il faut que j'aille secourir mon enfant. Il va pouvoir potentiellement le secourir. 2 heures après, l'ado a refugué. C'est épuisant. C'est ça qui est dur. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors c'est tout le paradoxe de l'adolescence, c'est-à-dire qu'ils gardent du lien. Et ça, ils sont magnifiques pour ça, c'est qu'ils gardent le lien. Et c'est à nous aussi, c'est là où il va falloir qu'on s'appuie là-dessus. Et en même temps, qui épuise et qui fait cette mort lente, cette mort psychique. Une maman me disait aussi à quel point ça a des conséquences physiques. La perte de poids, la question de vivre dans l'incertitude permanente, qui est effectivement très, très difficile. Sentiment de ne pas être soutenu par l'ensemble de l'équipe, c'est là où ça nous met à mal, des équipes professionnelles, c'est la question d'être jugé aussi en tant que parent. Et on voit bien, en fait, c'est que cette problématique, ces adolescents-là nous mettent tous à mal. Sauf que, aussi, une manière de réagir, c'est que quand on est mis à mal, on répond de manière aussi très défensive, et des fois, la défense, n'est pas une réaction des plus adaptées. Donc cette question, au contraire, de pouvoir faire corps ensemble et de pouvoir, comme on disait, aussi inclure potentiellement les parents. Le perte d'espoir dans le système de protection de l'enfance, l'impact sur le couple et la fratrie, bien évidemment que oui, puisqu'on va avoir cette question en plus, moi, j'ai beaucoup rencontré, les parents que j'ai rencontrés en majorité étaient des parents qui tenaient encore bon, qui potentiellement n'avaient pas divorcé, qui étaient encore en couple, où la fratrie était là. J'ai eu peu accès aussi aux parents pour lesquels le système familial avait explosé, qui étaient usés, qui ne pouvaient plus tenir, tout simplement. Donc c'est ça qui est effectivement très difficile, sentiment d'épuisement et d'usure psychologique, et je te l'ai passé trop tôt, et cette question de pouvoir penser, et c'est vraiment là aussi en termes de représentation, les parents et la fratrie comme co-victimes. Et ça, là aussi, il faut absolument qu'on puisse se le représenter de cette manière-là pour justement pouvoir apporter l'aide la plus pertinentes et judicieuses possibles. Si on les laisse de côté, c'est foutu, quoi. L'aide ne sera pas l'aide adaptée. Je laisse la parole à Hélène pour la question des professionnels. Donc tu vas avoir un peu le même discours.
Exactement. Puisqu'en fait, en partageant nos analyses de données relatives justement aux entretiens réalisés avec les professionnels, mais aussi avec les parents, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'éléments similaires. Et concernant... Et concernant les professionnels rencontrés, on a essayé de schématiser au plus simple toute la souffrance qui a pu ressortir des entretiens avec les professionnels, une souffrance qui est liée au manque de moyens, on le sait, manque de moyens criants dans tous les secteurs qu'ils soient, que ce soit le secteur de la protection de l'enfance, mais aussi le secteur médical, le secteur judiciaire. Il y a énormément de choses à améliorer, on le sait. Manque de moyens qui implique une surcharge de travail, parce qu'il y a un sous-effectif qui est constant, mais aussi, du coup, des difficultés d'accès à la formation, à se libérer du temps, parce qu'il y a déjà du sous-effectif pour aller chercher de la formation auprès d'autres professionnels, l'absence d'outils et de réponses institutionnelles. Donc là, on est en train, tous ensemble, d'en créer, et on espère pouvoir déjà apporter cela. Une absence aussi de cellules de soutien pour les professionnels, ça c'est quelque chose qui a été vraiment quasiment fréquemment mentionné, peut-être à chaque entretien, ce besoin aussi de pouvoir décharger quand un professionnel accompagne une situation de prostitution mineure, et puis ce manque de temps d'échange entre professionnels. Là, on le prend aujourd'hui, mais le professionnel aussi dans la même ville. Là, les temps d'échange commencent à émerger, ces groupes de travail commencent à arriver. Et tant mieux, puisque beaucoup de professionnels en ont le besoin. Tout ça, ce manque de moyens, il implique également des difficultés à réaliser l'accompagnement individuel, notamment par manque de temps, et puis la limitation du repérage. On le sait parce qu'il n'y a pas suffisamment d'outils, parce que les professionnels ne sont pas suffisamment nombreux, ils croulent parfois sous des demandes administratives, au lieu de passer du temps avec le mineur comme ils le souhaiteraient. Tous ces éléments-là amènent à un sentiment de défaut de protection. Défaut de protection, c'est vraiment le terme qui a été employé par beaucoup d'entre vous. Et puis également, voilà, tout ça implique de la souffrance, un sentiment d'impuissance et de culpabilité qui a été constaté sur chaque territoire. Et ça, on souhaitait le schématiser aussi pour pouvoir le poser, que les équipes y réfléchissent également ensemble. C'est un schéma que du coup vous retrouvez dans la recherche. Et puis, comme le disait Mélanie, en partageant justement nos données en psycho et en sociaux, on s'est rendu compte en analysant nos entretiens que professionnels comme parents partagent ces sentiments similaires, la sidération, l'incompréhension, comme elle le disait, l'impuissance dans le rôle de protection, et puis la souffrance et l'usure, et quelque chose qui n'est pas à nier, c'est la souffrance des professionnels. Et vraiment, avec les mécanismes de défense dont tu parlais à l'instant, sur une tentative possible de mise à distance, ou qui s'exprime également par du rejet ou de la banalisation. Mais tout ça est bien sûr à prendre en considération chez les professionnels, et peut-être qu'avec ces temps d'échange aussi, ils vont pouvoir être posés, discutés et compris par l'ensemble des professionnels et aussi des parents.
Et juste pour ajouter, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, en fait, c'est-à-dire qu'on est tous tellement face à cette impuissance-là que, de faire corps, on parle de collaboration depuis tout à l'heure, c'est ça aussi l'intérêt d'une collaboration, c'est-à-dire qu'on est ensemble dans le même bateau. Moi, je parle beaucoup avec les mineurs que je rencontre dans ma prise en charge, c'est qui on met dans l'équipe. Et donc là, c'est pouvoir se penser aussi en termes d'équipe. Alors peut-être que le mineur, il ne veut pas y être tout de suite dans l'équipe, mais n'empêche qu'autour, il va falloir qu'on constitue une équipe, et d'autant plus qu'on se retrouve en fait, on est des êtres humains, donc on ressent tous la même chose. Enfin, après, chacun sa personnalité, chacun son histoire, etc. Mais c'est là où c'est vraiment important et intéressant aussi de le souligner, c'est faire équipe ensemble. On mettra aussi donc cette vidéo-là de comment aider un mineur victime de prostitution. Je ne veux pas spoiler parce que je veux que maintenir le suspense pour que vous puissiez aller la voir sur Internet. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se dire tenir bon. Enfin, c'est aussi ça, et pas focaliser sur la prostitution. Je repense à une jeune fille, quand on pouvait la questionner sur prostitution, autant vous dire qu'il n'y avait rien qui sortait. Même pas d'émotion, son corps, il n'y avait rien, même pas au-delà du verbal. Par contre, quand on parlait effectivement de ce qui la faisait souffrir, de comment elle allait, et potentiellement elle était avec sa famille, avec son frère, où c'était compliqué, etc. Ah ben, je vous assure que déjà d'une, le débit verbal n'était pas le même, et qu'en plus son corps parlait, pleure, etc. Donc c'est là où il faut aller en fait. Donc comment aider, c'est ce qu'on disait, et Mme Messina je crois le disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire partir de là où ils en sont. Mais je vais laisser peut-être, alors on a mis dans quel sens, Monsieur Castells d'abord en parler, et puis après Monsieur Cornu qui en parlera.
Oh, ouais, peut-être mettre juste la maison. Bon, je vous avoue déjà que j'étais hyper stressé. Je vous ai appelé à plusieurs reprises et je me suis dit, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Et en même temps, j'avais envie de le faire avec mes tripes, avec la couleur du lieu. Et donc, je vais me lancer. Dans un premier temps, je souhaitais vous remercier, Mélanie Dupont et Hélène Pohu, pour l'intérêt porté à nos hypothèses de travail au sein de notre petite structure mulhousienne et maintenant Belfortaine. Leur proposition de venir présenter aujourd'hui les pistes de travail explorées par le lieu nous honore et vient nourrir notre idée folle de participer à une transformation sociale, guidée par les besoins des publics et colorée par leur expérience, et non pas par l'angle des besoins d'un service ou d'une institution de plus en plus animée par une véritable marchandisation du secteur social. 15 minutes pour vous parler de cette aventure, pour vous faire part de l'ensemble de nos doutes, pour vous dire qu'au fil du temps, nous avons toujours l'impression de passer à côté d'essentiel. Et pourtant, nous souhaitons continuer à explorer ces zones sombres, à tenter d'apprivoiser l'inentendable, à comprendre que l'accompagnement des conséquences psychotraumatiques de la prostitution, entre autres, demande aux professionnels du temps, de la créativité, de l'incertitude, et non pas des recettes toutes faites qui pourraient rassurer les pouvoirs publics. Ainsi, nous acceptons de mesurer que les graines semées aujourd'hui ne donneront peut-être rien, si ce n'est de l'engrais pour plus tard. Et là, je cite Moussa Sow, un pédagogue sénégalais. Alors, saisissant cette tribune comme une véritable chance et voulant être le plus respectueux de nos jeunes accompagnés, de leur expertise, de leur famille et de leurs connaissances, de mon conseil d'administration si vivant, mais aussi des départements qui ont accepté de prendre des risques à nos côtés et de mes formidables collègues si créatifs et engagés, j'ai fait le choix et je prends le risque de présenter le lieu sous une forme un peu vivante, un portrait, pour tenter d'être le plus fidèle à ses valeurs, en vous dressant un portrait vivant à vous, pour vous donner la philosophie, les couleurs, les pratiques, mais également les failles d'un projet dont l'outil principal d'intervention est l'émotion, et j'en suis plein. Alors, qu'est-ce que le lieu ? Le lieu, certains disent que le lieu, c'est une association qui n'a rien inventé, et ils auront bien raison. Indigné par les parcours émiettés des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, le lieu, c'est l'histoire de quelques professionnels riches de leur expérience et de leur casserole qui ont décidé de tout copier, ou tout au moins de s'inspirer des courants de l'éducation populaire, de la prévention spécialisée des années 70, où l'éducateur cultivait son talent personnel, tel un artiste agissant au gré de son inspiration et ne comptait ni son temps ni son énergie, de l'association SPER du Sénégal et de ses méthodes pour partir à la rencontre des enfants des rues, du bureau consultation jeunesse du Québec et de ses valeurs, liberté, solidarité et justice sociale, avec comme socle le développement du pouvoir d'agir, de la Fondation Abbé Pierre et de l'association ALSA, qui s'occupe des grands précaires et qui nous explique que le cœur du travail social, ce n'est pas d'être dans une velléité du projet, mais au contraire d'accepter pour le professionnel d'être juste là, sur place, là où a priori il ne se passe rien, comme une forme d'accompagnement social palliatif où naît pourtant le cœur de la rencontre. Et aussi du théâtre de l'opprimé qui porte le message, comme le disait si bien Auguste Boal, qu'être citoyen, ce n'est pas vivre en société, mais la changer. Alors le lieu n'a rien inventé. Il tente avec quelques maladresses de faire un mix de ses pratiques et valeurs chargées d'humanité, de liberté et d'engagement. Je m'étais calculé 15 minutes, ça dure 15 minutes. En 15 minutes, ça sera fini. Oui, c'est bien joli tout cela. Ce sont des mots, des jargons du travail social. Alors ce lieu, il accompagne qui ? Le lieu n'est pas une maison financée spécifiquement sur la question de la prostitution juvénile. Il ne cherche d'ailleurs même pas à obtenir ses financements. Le lieu est mandaté pour accompagner et partir à la rencontre des mineurs et trop peu de jeunes majeurs pour qui l'aide sociale à l'enfance du Haut-Rhin et du territoire de Belfort sont en inquiétude. Les jeunes en fugue des institutions, les placements non exécutés, ceux qui refusent leur placement, ceux dont les professionnels, les inspecteurs et les juges n'ont plus de nouvelles, ceux qui ont fait exploser toutes les mesures proposées, nos fameuses patates chaudes, nos incasables. Nous préférons parler de ces enfants qui nous mettent à l'épreuve du lien. L'idée centrale étant de partir à la rencontre du jeune et de l'accompagner à partir de là où il est. Souvent, ces jeunes sont ou ont été victimes de violences sexuelles. Un nombre important d'entre eux sont confrontés de près ou de loin à la prostitution et nous faisons le choix d'insister pour leur dire que jusqu'à 18 ans, ils ne sont que des enfants et doivent être protégés. Bien qu'ils puissent parfois avoir du mal à l'entendre ou à nourrir l'espoir de pouvoir un jour sortir de cette emprise qu'ils ne connaissent malheureusement que trop bien. Le lieu est donc une structure alternative de placement qui accompagne le jeune là où il est, avec comme objectif de renouer le dialogue en étant disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et avec la possibilité pour certains de bénéficier d'un toit pour les mettre à l'abri en dissociant l'accompagnement éducatif de la gestion locative. Alors le lieu, c'est trois petites maisons, une sur Mulhouse, une sur Colmar, une sur Belfort, qui s'adaptent à la réalité du territoire et qui offrent des accompagnements personnalisés, allant de la mise en appartement à l'accompagnement au domicile ou encore à partir de l'espace d'errance du jeune avec l'idée de jamais trop grandir. Les maisons doivent rester petites, pas plus de 14 enfants par structure, afin que chaque professionnel puisse connaître l'ensemble des situations, sorte de référence partagée. Le lieu, c'est du temps. En effet, nous avons eu le temps de théoriser notre pratique. Et oui, réfléchir, c'est du travail social. Le temps d'imaginer une temporalité élastique pour partir à la rencontre de Françoise, Clara et Léonore, partie à la dérive et qui avait, après d'innombrables fugues et malheureuses rencontres, échoué dans d'autres départements. Le lieu, c'est aussi du temps pour les professionnels, pour réécrire une histoire avec la famille et le jeune, afin d'offrir une dynamique nouvelle. Du temps pour s'autoriser à être créatif, inventif et voyageur. Du temps pour accepter de plonger dans des aventures sordides, face auxquelles les professionnels se sentent parfois impuissants, et avoir l'utopie d'en créer une plus animée, plus incarnée. Le lieu, c'est aussi du temps pour déposer la charge émotionnelle auprès du psy-cartouche, en one-shot ou en groupe d'analyse de la pratique. Du temps pour aller travailler auprès d'autres publics, afin de s'inspirer de nouvelles méthodes et théories. Au lieu, on tente de laisser du temps au temps. Les professionnels ont la chance d'accompagner 3 jeunes maximum et adaptent leur rythme de travail à la temporalité et aux besoins des adolescents. Cela paraît tellement simple et c'est tellement con et pourtant c'est tellement vrai. Cette variable temps est si nécessaire pour que dans une rencontre, l'autre accepte de glisser de la méfiance vers un tout petit peu de confiance. Le lieu, c'est le PAT, un point d'ancrage mouvant. Il était important que Farid, Kenza, Hélène, Christophe, Rebecca comprennent qu'au sein de nos maisons, le jeune n'a pas besoin de faire la preuve qu'il mérite notre accompagnement. Chacun est unique, avec son histoire, sa famille et son environnement. Qu'il soit en demande ou refuse tout accompagnement, le lieu tente de le soutenir, afin de trouver ou de retrouver un équilibre au quotidien pour leur permettre de mieux vivre. Certains se sont construits une identité négative, définie par leur manque et les expériences vécues et ses vices subis, culpabilité, dévalorisation, faible estime de soi, qui peuvent amener à des conduites d'échec et une situation d'exclusion. Et pourtant, ils ont tellement de compétences, de ressources, de capacités d'adaptation. Il semble donc que ce véritable choix de l'espace de la rencontre et de la temporalité du jeune facilite le lien et la possibilité pour lui de s'autoriser à se tromper, à recommencer, à réussir et de pouvoir enfin se révéler à lui-même. Le lieu, c'est aussi une poche qui réchauffe. Léa, Véronique, Inès n'ont pas de valise, mais des sacs, des sachets, des cartons. Le carton devient armoire, le sachet est un tiroir. Les affaires d'une vie attendent ici au lieu, parce que là-bas, elles disent, c'est pas chez nous. Aujourd'hui, des solutions alternatives sont proposées aux jeunes en errance, grâce au partenariat monté avec les acteurs de la protection de l'enfance. Mais pour certains, cela ne correspond pas, ou plus. Alors c'est dormir chaque nuit chez quelqu'un d'autre, à l'hôtel, chez un copain, son copain, quelqu'un qu'on connaît à peine, dans un squat. Alors Léa, Véronique et Inès poussent les professionnels à faire avec leur lieu de vie, de squat, de survie. Parfois troubles, inadéquats, dangereux, ces lieux sont leur point de chute, ceux où les professionnels du lieu les cherchent. Alors le lieu, ses locaux, son équipe, peuvent apparaître comme un point de repère, celui où venir poser ses bagages, se réchauffer. Se reposer permet à ces jeunes de pouvoir reprendre un peu de souffle. Au sein de cette poche qui réchauffe, comme une sorte d'instant de répit dans ses parcours chaotiques et ses vies malmenées. Le lieu, c'est une pratique en mouvement. Au démarrage, une bonne partie des jeunes orientés sont dans des parcours d'errance, pratiques de déplacement, voyages plus ou moins lointains au gré des rencontres et des désirs de changement, ou encore et surtout de l'emprise des personnes maltraitantes dans et hors département. S'appuyer sur le réseau familial, Les réseaux sociaux, nous sommes tous devenus des experts de Snap, Instagram, TikTok. Accepter de se déplacer hors département, entendre le refus régulier du jeune qui se méfie des travailleurs sociaux, prendre le temps comme allié, sont autant d'orientations prises par les professionnels du lieu. Travailler avec les mineurs en errance nous pousse à réfléchir ensemble et autrement, à innover, pour tenter de répondre au mieux aux enjeux de la protection de l'enfance. Le lieu où l'art de travailler est la présence dans l'absence, c'est peut-être le seul concept qui appartient au lieu. Françoise avait disparu depuis 2 années. Théo passe chez sa mère comme une tornade une fois par semaine. Morgane se cache derrière sa porte et refuse d'ouvrir. Anne rentre tous les soirs, tard, très tard. Mais que fait-elle de ses journées ? Le paradoxe de ces enfants furieusement présents et intensément absents mène les professionnels du lieu dans ces accompagnements uniques à faire appel à toute leur créativité pour recréer du lien, surtout lorsque le jeune n'est pas là. L'équipe laisse une trace de son passage avec une attention aux jeunes, des mots, des photos, un SMS, un petit envoi sur une application. Elle lui montre que lorsqu'il est absent, il compte. Et quand ils sont là, a priori absents, cachés sous leur couverture, pour surprendre, pour étonner, on reste là, à côté. On essaie d'être drôle. On y arrive quelquefois. Inès, Mélissa, je ne sais pas combien de fois j'ai eu la chance de discuter pendant des heures avec votre couverture. Et je crois que je ne regrette pas aujourd'hui cette folle hypothèse éducative. Le lieu, c'est le cas de Barbapapa, dont le père fondateur du concept est David Lomé, travailleur social et formateur sur Grenoble. L'accompagnement se construit autour des mots du jeune, de leur réalité et celle des familles. Et compte tenu du postulat de l'inconditionnalité dans l'accompagnement, nous sommes à leur côté dans l'ici et maintenant. Cela demande une adaptation permanente, voire une hyper-individualisation du cadre et de l'accompagnement. Ce cadre qui s'adapte aux besoins du jeune et non pas aux besoins du service est un outil central de notre intervention. Hélène, qui en 2 années a déménagé 3 fois jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un refuge dans un appartement qui lui semblait assez sécure, la mettant à l'abri du passage de tous ces hommes qui ne la considéraient que comme objet. Christophe, pour lequel nous sommes allés pendant 1 année sonner à sa porte tous les matins pour qu'il puisse passer son CFG. Afin d'être le seul diplômé de sa famille, il en était si fier d'ailleurs, et sa famille aussi. Carole, que l'on rencontre le soir, tard, toujours dans des villes différentes. Jennifer, que nous accueillons quand elle décide de passer au lieu, avec ses fragilités et ses multiples addictions, drogue, sexe, alcool. Le lieu, ce ne sont pas que des jeunes, c'est beaucoup d'autres adultes autour de ces jeunes, et pas que des travailleurs sociaux. Nous essayons de jouer, comme le font nos collègues du Québec, notre rôle de passeur. Alors merci à toi, Chloé, et ton association de médiation animale, qui offre à Nico, Lara et Cindy des espaces au vert, auprès de tes chiens si libres, auxquels nos jeunes sont si attachés et s'identifient. Merci à toi, Marie, esthéticienne, qui s'est posé tes mains comme personne sur ces corps malmenés, utilisés, non respectés, épuisés, et sur ces âmes écorchées, et qui offre un réel espace de bien-être, car il se dénoue tant de choses dans cette bulle. Merci à toi, François, d'éclairer ces visages par tes photographies et de révéler leur beauté. Merci à toi, Vincent, de nourrir le projet d'une ascension folle pour des jeunes qui sont dans des rythmes décalés. Merci à toi, Fatima, d'offrir des cours de chant pour permettre à ces jeunes de se connecter réellement à la musique pour ce qu'elle est, à l'écart du brouhaha, des bars à chicha et des rythmes endiablés des boîtes de nuit. Merci à toi, Roselyne, comédienne dans les créatures émotionnelles des ateliers du lieu, d'offrir tant d'énergie dans notre combat qu'il devient contagieux pour la jeunesse du lieu qui nous accompagne sur scène. Le lieu, c'est de la créativité, de la liberté avec des supports proposés, le sport, la culture et le voyage. Nous essayons d'impulser dans le cadre de ces projets ambitieux un esprit communautaire, une forme résolutive partagée afin de soutenir et de restaurer l'image de soi. Se mettre en mouvement autrement dans les ateliers de boxe pour Esma, embarquée dans les réseaux de prostitution depuis l'âge de 13 ans, c'est faire le pari qu'elle ressente qu'elle peut habiter son corps, s'inscrire dans un collectif, être fière d'elle. Pour Kenza et Olivia, embarquées sur une aventure artistique depuis 4 années, dans une pièce de théâtre sur la thématique des violences faites aux femmes, cela a été la possibilité d'essayer d'exister autrement et, pour reprendre leurs mots, de mener un véritable combat. Voyager pour Marc, Elsa, Stéphanie, en France, à l'étranger ou lors d'un séjour surprise pour rompre avec un quotidien trop violent, fut l'occasion de s'offrir une poche de respiration dans leur survie, où ils s'autorisent à penser un peu pour eux, autrement, riches des rencontres et des zones nouvelles qu'offre l'inconfort nécessaire à se sublimer, à s'étonner. À écouter ce portrait du lieu, on pourrait croire à une recette, à une méthode. Et pour autant, pour conclure, j'aimerais vous faire part des doutes qui envahissent les professionnels et les membres du conseil d'administration de nos maisons. Je ne vous ai partagé que des hypothèses de travail. Soyez certains que je doute de tout ce que je vous ai dit. Nous mesurons chaque jour la fragilité du lien créé. Notre bienveillance et notre amour sont loin de faire le poids face à l'appel de l'adrénaline et de la survie qui est bizarrement devenue leur zone de confort, car ils ne l'ont que trop connue. Nous nous plantons très souvent. Nous acceptons d'être perdus. Nous accompagnons des victimes qui basculent quelquefois du côté des bourreaux. Nous cheminons dans le calme pendant près d'une année et tout s'écroule en une minute, car le jeune fait la mauvaise rencontre, quelquefois même dans notre espace que nous voulons sécure et à taille humaine. Je crois que vouloir travailler sur la question de la prostitution des mineurs en France, c'est aussi accepter d'être traversé et tiraillé par des paradoxes que je souhaite vous partager. Entre l'idée de se lier à cette jeunesse et pouvoir se délier, la question des troubles de l'attachement est une dimension que nous souhaitons explorer davantage au sein du lieu. La nuance entre la prévention des risques et la prise de risque. Nous mesurons chaque jour au sein du lieu combien cette jeunesse nous amène à flirter avec les limites et les marges. Comment articuler l'hyper-individualisation et la préparation à l'accès à la majorité ? Peut-on concilier le principe de non-abandon et l'arrêt de l'accompagnement quand il n'y a pas de contrat jeune majeur ? Comment évaluer la plus-value de l'accompagnement sur le long terme dans une société du résultat ? Comment collaborer avec les partenaires, les donneurs d'ordre, dont les logiques institutionnelles s'écartent quelquefois des réalités et des nécessités du terrain ? Tous ces questionnements nous demandent de rester dans une réflexion et production permanente de nos propres savoirs. J'entends par là ceux des jeunes, des familles, des partenaires et des professionnels, en tentant de ne pas banaliser la normale, de refuser l'inacceptable et de le porter aux yeux des décideurs. Et pour conclure, je tenais à remercier l'ensemble des familles et des jeunes avec qui nous avons la chance de faire équipe. Et j'espère dans ce portrait ne pas avoir dénaturé les liens d'authenticité que nous essayons chaque jour de créer à vos côtés. L'approche du lieu, c'est faire disparaître la position du professionnel en gommant la dimension du pouvoir au profit d'un collectif humain. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Soufflez, tout va bien. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Cornu. Je vous laisse ça si vous voulez passer. Hop.
C'est bon, merci. Bon, je ne serai pas peut-être donc aussi drôle et original, j'en suis désolé d'avance. Je commençais par me présenter pour vous dire un peu d'où je parle. Je suis donc Mathias Cornu, je suis directeur de l'association Relais qui est située à Villeurbanne et je dirige 5 établissements et services. Pour une soixantaine de salariés. Et au sein de ces services-là, nous gérons un foyer pour adolescentes où nous avons 22 places pour des adolescentes âgées entre 15 et 18 ans en plein centre-ville de Lyon, avec tout ce que ça génère aussi en termes de population. Pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, nous sommes à 150 mètres du centre de la Part-Dieu, qui est le plus gros centre commercial de la ville, mais aussi qui est donc la gare qui draine une population très hétérogène. D'abord, je tiens à remercier l'association CVM de m'inviter aujourd'hui. Et je dois dire que je suis très heureux aussi de rencontrer d'autres personnes qui vivent ce que nous vivons nous depuis plusieurs années. Et si je fais un petit peu le fil en arrière, j'aurais jamais pu penser en 2018 ou en 2019, comme un certain nombre d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, de penser que 3-4 ans plus tard, nous serions avec... avec une recherche-action aussi riche, aussi intéressante, et avec des pistes de travail que nous avons à développer ensemble. Pour ma part, la commande aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler de ce que nous faisons à destination des mineurs, mais c'est plutôt comment nous, l'association, nous avons donc réfléchi, en lien avec la métropole de Lyon, à donner les outils et les moyens pour permettre aux équipes de survivre aussi dans ces épreuves très douloureuses pour faire face à la souffrance des mineurs. Un petit point, juste une petite explication. La particularité de la ville de Lyon, c'est que nous sommes donc une métropole. C'est la métropole de Lyon qui a en charge la mission de l'aide sociale à l'enfance, au même titre que sur d'autres territoires, les conseils, les départements. Je vais commencer un peu voir par des constats qui ont déjà été donc partagés aujourd'hui. En tout cas, nous, sur le foyer pour adolescentes, ça a été, comme ça a été dit, une augmentation donc assez massive depuis 3-4 ans. Moi, j'ai remonté le fil sur les rapports donc, d'activité de l'institution. Finalement, le phénomène, il existait déjà. Nous avions très régulièrement une jeune, des fois deux, au sein de l'institution, qui était victime de prostitution. Mais ce que nous observons depuis 2018-2019, c'est une augmentation donc massive du phénomène dans l'institution. Assez régulièrement, nous faisons état de entre 25 et 30% des adolescentes du foyer qui sont victimes de prostitution, avec un phénomène de recrutement à l'intérieur même des institutions, avec des mineurs qui sont des victimes qui passent auteurs de prostitution et qui sont à leur tour donc proxénètes, et aussi un repérage de l'institution par les réseaux, avec des adolescentes qui se font happer de jour comme de nuit par des grosses voitures cylindrées, vitres teintées, qui récupèrent les ados donc devant les foyers. Ces situations, ça génère de la violence dans l'institution, déjà, parce que ça peut générer parfois des règlements de compte entre les adolescentes, mais aussi de la violence contre l'institution. Nous avons eu plusieurs épisodes où les réseaux s'en sont pris à nous, voilà, avec quelque chose qui a traumatisé donc l'institution, avec une attaque donc au marteau en 2019. Voilà, deux membres d'un réseau qui avaient des cagoules et qui sont venus s'en prendre aux adolescentes, avec tout ce que ça a pu générer dans l'institution en termes de droits de retrait pour les éducateurs. Voilà. Et à cette époque-là, que ce soit notre association comme les collègues des autres établissements de Lyon, nous avons pu nous réunir et à se dire on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions. Il faut que nous, au niveau de la métropole de Lyon, nous trouvions des solutions ensemble. Comme je pouvais le dire chez les équipes, ça génère un sentiment donc d'impuissance, de sidération, d'incompréhension et même de rejet. Ce qui, de prime abord, on pourrait se dire, les éducateurs, ils ont choisi de faire ce métier-là, ils ne peuvent pas être dans le rejet des situations. Eh bien, si, il y a des mécanismes de défense qui sont à l'œuvre, qui étaient donc décrits juste auparavant, qui sont très forts. Avec moi, des éducateurs qui m'ont dit, mais donc, monsieur Cornu, on n'a pas les moyens de prendre en charge ces jeunes-là, cette jeune-là n'a plus sa place chez nous. On a beau expliquer, et c'est malheureux, c'est que le territoire ne dispose pas des moyens suffisants pour prendre en charge ces adolescentes-là. Finalement, la seule porte de sortie dont dispose l'éducateur à ce moment-là, c'est d'être dans une forme de rejet. Nous avons la chance, nous, du coup, sur les territoires de la métropole, d'avoir eu la direction de la protection de l'enfance, qui est assez proactive sur le sujet, qui s'en est saisie avec la création d'un premier comité en juin 2020, qui nous a réunis. Alors, au début, nous étions 6. Voilà. Aujourd'hui, un an et demi plus tard, nous sommes 22, donc j'en suis très heureux. Nous avons commencé, nous étions juste deux directeurs d'établissement, des responsables de l'aide sociale à l'enfance, l'amicale d'Uni, le parquet était présent dès le début. Aujourd'hui, dans ce comité, nous retrouvons aussi l'éducation nationale, les services de police, une médecin, et pour avoir vraiment des regards croisés. Ce qui est intéressant, quand j'ai produit ce PowerPoint, c'était de me rendre compte que les constats que nous faisions, nous, avec les collègues du territoire, sont exactement les mêmes qui sont issus de la recherche-action. C'est-à-dire de la nécessité de développer un langage commun. Si nous voulons travailler ensemble, il faut commencer par parler la même langue. La nécessité d'avoir d'avoir donc un recensement, c'est de combien de situations pouvons-nous parler. Je salue à ce titre Jérôme Godard qui est ici dans la salle, qui est chargé de mission à l'Observatoire de la Métropole de la protection de l'enfance et qui a un travail assez considérable pour aller auprès des établissements et des territoires pour comprendre de combien de jeunes nous pouvons donc parler. Nous avons fait donc ce constat de la nécessité de travailler sur le sentiment d'isolement des professionnels et bien évidemment ensuite de se douter d'avoir des outils collectifs. Que ça soit donc à la fois des moyens très administratifs, comme d'avoir des nouvelles formes de prise en charge. Pour vous expliquer un petit peu les actions qui ont été mises en œuvre, à l'échelle de la métropole, donc en lien avec les collègues de l'aide sociale à l'enfance, la métropole de Lyon est venue mettre les financements pour une action de sensibilisation et de formation qui a été portée par l'amicale d'Uni à destination des professionnels. Là, en 2021, à titre d'exemple, c'est 158 professionnels qui ont été formés et sensibiliser, que ça soit au sein de nos établissements, au sein de l'aide sociale à l'enfance, au sein des éducateurs qui sont en charge de mesures d'AEMO, des éducateurs de prévention spécialisée et de l'éducation nationale. Il a été mis en place également 3 groupes de travail pluridisciplinaires avec 3 thématiques. Une première donc thématique au niveau de la prévention des situations, une thématique autour de la réponse donc judiciaire et un 3e groupe de travail autour de la prise en charge et de la mise à l'abri de ces mineurs. On parle bien là, on est sur un temps très court, hein, ce sont des groupes qui sont créés en 2020. Les outils sont en train de se créer et nous espérons que ça va continuer de se développer pour aboutir à des réponses assez concrètes dans les mois et les années donc à venir. Dans les solutions assez concrètes, ça a été, comme ça a été signifié auparavant, une fiche de signalement à destination du parquet des mineurs estampillée prostitution. Ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que dès le début de la procédure, il y ait cette signalétique qui puisse donc alerter tous les acteurs qui vont intervenir dans la situation, mais aussi d'avoir des indicateurs qui montrent et qui prouvent la prostitution pour permettre que lorsque le parquet s'en saisit, puis transmet au service de police pour déclencher, pourquoi pas, d'aucune enquête, il y ait déjà des éléments qui soient assez concrets, assez tangibles, pour permettre au service de police de faire leur travail. Il a été aussi mis en place en novembre 2021 la création d'une commission de suivi des situations avec plusieurs objectifs. D'abord, encore une fois, de lutter contre l'isolement des professionnels. Donc, c'est une commission qui s'est réunie une fois par mois. Là, nous avons déjà fait 6 situations. Elle réunit 10 d'acteurs. Donc, encore une fois, les services de soins, les services de la métropole, donc l'aide sociale à l'enfance, des cadres d'établissement, la PJJ, si je ne me trompe pas, le parquet et depuis très récemment, les services de police. Et c'est l'occasion qui est donc donnée à 2 travailleurs sociaux de venir présenter des situations où ils sont dans une impasse. Finalement, ce temps qui dure 1 heure par situation, c'est un incubateur où on va réfléchir tous ensemble avoir d'autres pistes de travail pour trouver des solutions les plus concrètes possibles. D'autant plus, finalement, des situations qui, des fois, auraient mis 6-8 mois à se résoudre. Là, finalement, l'espace donc, d'une heure, d'avoir les acteurs qui sont réunis, peuvent, en particulier, je trouve, avec le parquet et les services de police, peuvent amener des solutions très concrètes. Et enfin, quand même, de continuer à ce que nous allions dire au pouvoir public, aux élus, aux représentants de l'État, qui soient déconcentrés ou décentralisés, ce que nous faisons au quotidien et la stratégie qui est mise en place. Ça s'est traduit par la mise en place d'un comité des partenaires de mémoire fin 2021 et avec un 2e qui devrait avoir lieu à l'été 2022. Voilà pour ce qui a été mis en œuvre à l'échelle du territoire, bien évidemment en lien étroit avec l'aide sociale à l'enfance. Et assez rapidement aussi pour vous expliquer ce qui a été fait nous à l'échelle de cet établissement. Comme on a déjà pu donc l'évoquer, en particulier je pense à la collègue qui parlait du foyer d'urgence à Rouen, c'est la difficulté des éducateurs à changer les pratiques avec ces adolescentes-là. Des adolescentes qui arrivent dans un état très dégradé, qui rentrent de fugue avec des prises de stupéfiants souvent assez massives, qui sont pas toujours qui peuvent être assez souvent dans un état second et qui peuvent être rentrer aussi dans un état assez violent, assez agressif envers aussi le foyer et donc l'institution, peut-être à considérer qu'on les protège pas assez, qui est aussi à ce moment-là une réalité. Et c'est comment moi éducateur, comment moi veilleur, j'accueille cette jeune dans un état très dégradé. Je rappelle quand même, dans un lieu collectif, on a 22 adolescentes. Donc comment je me laisse donc le temps d'en mettre de côté 21 qui ne vont pas toutes très bien pour à ce moment-là recueillir la souffrance de la jeune. Parce que dans la temporalité, c'est à ce moment-là qu'avec cette jeune, il y a une fenêtre qui est ouverte. Pour éviter justement ce phénomène de rejet, nous avons décidé de nous baser sur le plan de formation de l'association et avons mis en place une formation à la gestion de l'agressivité des phénomènes de violence en institution. Notre choix s'est porté sur un cabinet avec une approche plutôt systémique et avec 2 comédiens formés à l'improvisation qui ont permis aux éducateurs de rejouer des situations de violence et d'agressivité avec des jeunes qui rentraient de fugue et finalement d'amener des éléments un peu salvateurs, un peu facilitateurs pour se sortir de ces situations. Et les éducateurs de la structure ont aussi pu bénéficier de la sensibilisation qui a été évoquée tout à l'heure par le Michael. Ce qui est assez intéressant là, en l'espèce de quelques mois, on voit déjà les effets que ça fait chez l'équipe. On a moins de mouvements de rejet. Moi, j'ai beaucoup moins souvent, dans des temps de réunion institutionnelle, des demandes qui est « cette jeune ne doit plus être dans nos murs, il faut solliciter une rupture auprès de la sociale à l'enfance ». J'ai presque plus ces problèmes-là. Pardon. Et je crois aussi que nous, donc les directeurs, nous avons aussi une responsabilité de laisser des marges de manœuvre donc aux équipes. Concrètement, les bonnes idées, elles sont venues, elles viennent encore des éducateurs de terrain. Et je crois que nous, directeurs, il faut qu'on se mette à une place quasiment de fonction support, d'être souple et d'être agile, pour leur permettre d'expérimenter, d'innover, de créer. À titre d'exemple, on a pu permettre aux éducateurs de mettre en place un atelier de socio-esthétisme au sein même de l'institution. Moi, j'ai vu des expériences assez formidables avec des adolescentes que nous perdions, qui ne venaient plus dans la structure, finalement revenir sur ces temps-là, donc à être assis avec les éducs, boire un thé, écouter un peu de musique, et même se laisser toucher pour un soir donc au visage. Et je crois assez profondément que c'est parce qu'on permet aux jeunes de repasser par le corps qu'on pourra aller un peu sur les mots. Voilà. Et finalement, quand on laisse ce démarche de manœuvre donc aux éducs, je crois qu'il ne faut pas leur demander, quand ils ont des idées pour un projet, de nous pondre un projet qui fasse 22 pages et de faire donc un budget au centime près. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on vient en arrière et on recommence. Quand ça marche, ce n'est que bénéfique pour la structure et surtout pour les jeunes. On a pu se rendre compte, dans les rencontres avec l'équipe de CVM, que finalement, l'institution avait développé des bonnes pratiques sans nous en rendre compte, et finalement qui pourraient être reproductibles sur d'autres territoires. Pour conclure, si je pouvais donc partager peut-être un conseil à mes collègues cadres et directeurs d'autres structures en France, c'est de ne pas rester seul. Il faut alerter les structures, il faut alerter les pouvoirs publics, donc l'aide sociale à l'enfance, et je crois qu'il faut le profiter. Je crois qu'il y a une fenêtre de tir aujourd'hui avec la production de ce rapport, et aussi la mise en lumière assez médiatique. Je suis assez surpris en ce moment, le soir donc à la télé, de tomber des fois sur des séries un peu policières, où le sujet donc il est traité. C'est-à-dire qu'il est médiatisé un petit peu en ce moment, c'est le début, et je crois nous qu'il faut qu'on s'en serve. Comme je le disais, c'est de permettre aux équipes d'innover, de se tromper, de revenir en arrière, et bien évidemment de développer des outils partagés. Quand je vois ce que vient de présenter le collègue à Mulhouse, moi je trouve que c'est formidable. C'est ce type de lieu que nous sommes en train de réfléchir, que ce soit au niveau de l'association, mais aussi au niveau de la métropole de Lyon. J'y crois, voilà, de se rebaser aussi sur des formes un peu d'éducation populaire et nouvelle pour avoir des nouveaux outils. J'espère que dans quelques mois ou dans 2-3 ans, nous pourrons nous aussi avoir la chance sur Lyon d'avoir un tel lieu. Je vous remercie.
Merci beaucoup, messieurs. Alors, je pense clairement que vous faites rêver. Je ne sais pas dans la salle, mais je crois que ça fait... En tout cas, vous offrez beaucoup de pistes et de réflexions. Et peut-être que vous redonnez aussi des perspectives. Je reprends votre mot sur le slide, mais c'est important d'avoir aussi, face à cette impuissance dans laquelle on peut être plongé, d'avoir des discours comme les vôtres qui remettent en perspective et qui peuvent ouvrir des portes. Écoutez, il nous reste comme ça une demi-heure pour qu'on puisse... continuer nos échanges, donc n'hésitez pas, il y avait des questions tout à l'heure où j'ai frustré, donc là c'est le moment d'y aller pour qu'on puisse continuer ces questions, remarques, enfin on y va. C'est toujours plus dur à 18h où on n'en peut plus.
Non, moi, c'était sur la question de... Et je rejoins totalement le collègue du lieu et monsieur aussi. C'est il va falloir mettre en place une grosse mise en travail sur la mobilité des publics et la compétence des départements dans cette mobilité-là. Comment on s'organise et comment on met en sécurité. Tout à l'heure, là, j'ai plus le... la fonction de la dame qui prenait le propos là, sur la ville de Paris. Mais c'est vrai que cette question de la mobilité, elle fragilise tout le monde, la police, les acteurs et notamment les jeunes qui sont dans des fugues, dans des parcours, dans des zones de turbulence et dans des prises de risques massives. Et pour qui fuit aussi des lieux de repos, des lieux de repli, et qui, quand on les rencontre sur le territoire, en rue, nous disent « Moi, il est hors de question que je rentre là-bas. » Donc, l'éducateur, le travailleur social, le policier va se retrouver dans une difficulté de mise à l'abri, puisque le jeune, il va aller au commissariat. Quand il va sortir au commissariat, qu'il va avoir la voiture des équipes d'urgence pour le mettre à l'abri, ben, il va ouvrir la porte, il va s'enfuir, et on va rester dans cette tourmente-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment une question à porter, je pense. Et franchement, bravo pour le lieu. Bravo.
Merci beaucoup. Vous êtes tous épuisés, vous êtes tous... En plus, la problématique est tellement pesante. Madame, peut-être.
Bonsoir à tous. Je travaille en FAE et je voulais souligner en fait un point que monsieur a amené lors de son discours sur le lieu. Je pense qu'on travaillait dans une équipe qui a déjà pas mal des choses que vous avez nommées en place. Et un des aspects extrêmement difficiles pour nos jeunes, hein, ce sont qu'on les accompagne, donc dans des situations et des suivis par rapport à des problématiques de prostitution, qu'on crée, qu'on construit, qu'on essaye de faire en sorte que la jeune puisse trouver des points d'appui et de ressources. Et là, 18 ans arrivent. Et là, c'est la fin. Et vous les perdez parce qu'il n'y a rien. Il y a des choses qu'on tente de mettre en place, mais pour le travailleur social, pour les équipes éducatives, pour les psychologues, les artés, tout le monde, quand on travaille en équipe, qu'on suit une jeune pendant 2 ans, 3 ans, qu'on fait quelque chose qui peut donner de la ressource, et tout lâche parce qu'il y a 18 ans. Là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à aller approfondir, travailler, pour pouvoir finalement faire perdurer les petites graines qui ont pu être semées dans des lieux comme le lieu, qui est un lieu magnifique, je ne travaille pas loin, et pour les autres. Et ça, ça crée de la souffrance aussi au niveau des équipes éducatives, parce qu'on est impuissant. On observe, il y a eu de l'attachement, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, et on ne peut juste rien faire. Voilà.
Par exemple, depuis janvier, on a ouvert une maison sur le territoire de Belfort. Ils ont une politique un petit peu différente, justement. Ils essayent de lutter contre ces parcours de rupture. Et dans nos modalités d'intervention, on sait que pour le jeune, à 18 ans, il va y avoir la possibilité d'un contrat jeune majeur. Donc ça nous permet aussi de projeter autrement sur la question de l'hébergement, du logement, sur tout ce qu'il faut étayer. Et c'est sûr que ça rassure. Et à contrario, au niveau de du Haut-Rhin, maintenant c'est la CEA, Collectivité Européenne Alsacienne. Donc là, on a fait marcher plutôt le réseau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit... quand on a créé le lieu, moi j'étais chef de service de l'association pour le logement des sans-abri. Et ce qui se passait, c'est que dans les rues, dans le cadre des maraudes, je rencontrais de plus en plus de mineurs. Où ces mineurs trouvaient quelquefois des solutions... bancale chez les gens que j'accompagnais au sein de l'association ALSA. Et l'association ALSA, c'est vraiment les grands précaires. Donc on pouvait se dire, c'est vraiment pas leur place que d'être dans ces appartements-là. Et aujourd'hui, la CEA entend tout ce qu'on essaye de mobiliser pour essayer de négocier des contrats jeunes majeurs pour que les enfants puissent avoir un toit sur la tête et quand ils sont majeurs, qu'ils puissent continuer à l'avoir. Il y a toute une réflexion qui est menée sur des passerelles entre le milieu de la protection de l'enfance et tout ce qui est financé dans les milieux de l'insertion, l'État. Nous, on a créé des maillages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les appartements dans lesquels sont les jeunes, c'est des appartements portés par une structure d'insertion. Voilà, financé par le département. Alors on a facilité les choses parce que c'est l'association ALSA, où j'étais chef de service avant, donc on a fait marcher un petit peu le réseau. Mais c'est sûr que ça, c'est des éléments qu'on vient vraiment réinterroger. Vraiment, je trouve que c'est une catastrophe que d'investir une relation, de commencer à semer, et à 18 ans, dire l'accompagnement s'arrête. La particularité, puisque je vois ma collègue qui me regarde, la particularité du lieu, c'est que dans notre statut, il est précisé que tout jeune accompagné par le lieu a la possibilité de revenir au lieu. Donc, on a beaucoup de jeunes de 18 ans et plus aujourd'hui, pour lesquels on n'est plus financé, qu'on continue à accompagner. Voilà. Et pour trouver, on a nos financements propres, c'est-à-dire que ce dont vous parliez tout à l'heure, on va faire du théâtre dans notre structure, et on obtient des financements qui nous permettent quelquefois de venir soutenir des jeunes pour une nuit d'hôtel, etc., sur des choses un petit peu particulières. Voilà.
Alors là, je suis désolée, mais je me permets quand même d'intervenir pour rappeler que la loi du 7 février 2022, depuis la loi du 7 février 2022, tout jeune ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance doit se voir proposer un accompagnement s'il a moins de 21 ans et qu'il ne dispose pas de ressources et d'un soutien familial suffisant. Ce sont les dispositions légales, donc ça change aussi, ça modifie votre cadre d'intervention. Et tout ça au bénéfice de ces jeunes.
D'autres remarques, questions, partages ? Madame.
L'éducation nationale a été pointée du doigt par sa non-coopération, alors que nous détenons la totalité de ces mineurs qui devaient être à l'intérieur de nos établissements. Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce que de ma structure d'où je sors, à savoir l'Alsace, Strasbourg, quel message je peux essayer de faire passer à mes responsables de service qui, eux, remontent à la direction qui a opposé un nom à Madame Pohu par rapport à sa demande d'entretien, quel message je peux transmettre aux directions?
Ah, mais il faut y aller, hein.
Ah,
allez-y,
oui.
Banco. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement, enfin, l'éducation nationale, c'est compliqué.
Compliqué.
Enfin, on va pas se mentir. Je crois qu'on partage ces pratiques-là. C'est compliqué. Mmh. Après, il y a les messages qui viennent du haut, et puis il y a les messages qui viennent d'en bas. Donc, je crois que c'est aussi par nos interventions aussi très individuelles que les choses peuvent bouger, et que si effectivement, potentiellement, tous les professionnels de l'éducation nationale s'emparaient, alors. Pas non plus leur demander de tout faire, mais en tout cas qu'ils pouvaient s'emparer de ça et qu'il y ait aussi de la sensibilisation au sein d'un établissement. Et on le voit bien, oui. Il suffit des fois d'un chef d'établissement pour lesquels ça va bouger. Donc, franchement, nous, on peut que vous. Vraiment, allez-y, madame. Si vous êtes motivée, ça se trouve, ça fera des petits. Donc, le message, c'est en parler. Et puis, il existe surtout des. Enfin, je pense qu'il y a en plus des solutions. Donc,
Oui, on s'est permis de renvoyer. En fait, de demandes d'entretien pendant cette recherche sur certains territoires. Certains professionnels nous ont dit qu'il n'y avait pas de prostitution de mineurs sur leur territoire et on a essuyé quand même quelques refus, pas chez nous, allez voir ailleurs, mais pas chez nous. Et ce qu'on a fait dans tous les cas, c'est que lors de la remise du rapport et de la synthèse et du premier outil, c'est qu'on a diffusé à toutes les personnes, même celles qui avaient refusé, bien sûr, notre demande. Peut-être que, moi j'ai renvoyé bien sûr au rectorat, mais peut-être que vous pourriez aussi proposer la recherche à votre direction, leur soumettre aussi les outils. On voit que sur d'autres départements, l'éducation nationale s'est emparée de la problématique. On le voit notamment à Lyon, où les infirmières scolaires, assistantes sociales ont été formées. Et grâce à ça, il y a eu de nombreux signalements. Quand j'ai commencé le terrain sur Lyon, on était au début de ces temps de formation par l'Amicale du Nid. Il y avait quelques situations. Et puis j'ai été rappelée quelques mois plus tard, quand ces personnes étaient formées, pour me dire, mais en fait, ça explose. On se rend compte qu'en fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup de situations. Parce qu'aujourd'hui, on est sensibilisé à ça. Peut-être que ça peut être l'occasion pour vos responsables, en tout cas, de s'emparer de la problématique.
Et ça peut se faire, regardez, les résultats que vous a présentés Charlotte tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ceux qui ont répondu au questionnaire, une grande partie vient de l'éducation nationale. Ça peut se faire.
Si je peux compléter, donc je suis conseillère technique auprès du recteur de Paris, service social.
Merci madame d'être là.
Voilà. Mais voilà, on a répondu avec plaisir à la demande d'enquête, etc. Donc il y a une vraie volonté, c'est dommage, madame Wipp est partie, mais il y a une vraie volonté d'améliorer la connaissance du phénomène, de sensibiliser nos équipes. Assistantes sociales, elles sont sensibilisées, infirmières, on y travaille aussi. Après, je crois que c'est les professionnels, les enseignants, les CPE, la vie scolaire, tous ces professionnels qui sont en prise directe au quotidien avec les élèves. La difficulté qu'on a quand même, et on le voit bien dans les signaux hein, pour le repérage, c'est l'absentéisme. Et l'absentéisme, on les a plus sous la main. Enfin, voilà, donc ils sont partis. Donc je crois que notre place, elle est surtout dans la sensibilisation autour de l'éducation à la sexualité, le vivre ensemble, toute cette prévention-là. Parce que malheureusement, on a beaucoup de mal. Enfin, moi, j'ai vu des situations où je suspectais très fort de la prostitution, mais ces élèves, on les avait plus, quoi, à l'éducation nationale. Donc c'est comment on rattrape ça quand on fait des signalements absentéisme au parquet, comment derrière c'est travaillé aussi pour aller chercher ces jeunes. Je pense que la place de l'éducation nationale, si je peux me permettre dans tout ce débat autour de l'éducation nationale, la place, elle est autour de la prévention, tant qu'on a les élèves dans les établissements et voilà, de travailler auprès des plus vulnérables où on sent qu'il y a ce risque-là.
Je rejoins complètement ce que vous dites, madame. Et l'intérêt de ces outils, c'est vraiment de pouvoir les diffuser aussi à l'intérieur des établissements scolaires et que ce ne soit pas au prof de porter le poids de cette formation. Enfin, je veux dire, c'est pas du rôle du prof de SVT, du prof d'éducation civique, du prof d'histoire, du prof de maths, de pouvoir enseigner aux élèves et aux étudiants que bah, c'est illégal, etc. Donc il faut déléguer cette formation, mais ça veut dire aussi que les départements doivent être en mesure de proposer des structures de formation. Ça peut passer par les associations, ça peut passer par des professionnels autres du médico-social, et d'où la diffusion vraiment des outils qui peuvent être des points de départ pour des mini-formations au sein des établissements scolaires. Mais on espère vraiment pouvoir, à terme aussi, pouvoir interroger vraiment les différents établissements scolaires pour avoir un retour vraiment de terrain de combien de situations ont été mises en évidence dans les établissements. Et pour l'instant, force était de constater qu'on a eu un refus catégorique de pouvoir interroger les élèves, les lycéens dans ces établissements.
Juste peut-être sur le territoire de Belfort, Julie Gauthier, simplement vous dire que, enfin vous remercier déjà pour cet après-midi, vous remercier aussi pour la qualité des outils, je trouve qu'ils sont très concrets, la trame d'entretien, les vidéos, vous dire aussi que cette démarche de formation s'enclenche, en tout cas sur notre territoire, on a un colloque de deux journées là, qui s'enclenche avec la CPE 17 et 24 juin. La volonté aussi de créer des référents vraiment dans les équipes du côté là davantage protection de l'enfance. La volonté aussi de créer des référents qui soient en capacité de s'appuyer aussi sur un collectif, parce que on voit bien que l'animation de collectif peut permettre aussi de faire émerger la parole. Et du coup ça nous permettra, en tout cas les outils que vous allez mettre en ligne nous permettront d'approfondir et avoir des supports concrets. Simplement dire aussi que sur la question des sorties, ou en tout cas des jeunes qui pourraient avoir 18 ans, 21 ans, on réfléchit aussi sur le territoire. D'ailleurs on va au lieu pour y réfléchir, on a la chance d'avoir cette maison sur notre territoire. De pouvoir réfléchir en réseau de professionnels d'un lieu, peut-être à terme ce qu'on appelle une ADEPAP, une association des anciens de l'ASE, qui pourrait être des lieux ressources qui permettraient à un jeune qui potentiellement aurait encore besoin d'une information, pas forcément besoin d'une mesure, mais d'un temps spécifique ou d'un relais dans un réseau, que ce soit par le biais de l'insertion professionnelle ou une question autour du soin, de pouvoir trouver un collectif de professionnels potentiellement regroupés et également d'autres pairs avec qui il pourrait peut-être échanger sur son parcours. Enfin, donc on est aussi dans ce type de réflexion-là pour créer des outils aussi de l'après, parce que protection d'enfance, on est 18-21 ans, mais 21 ans, c'est encore très très jeune, et potentiellement, voilà, c'est important qu'on puisse faire perdurer sous la forme potentiellement associative ce type de lien, puisqu'on voit bien qu'il est fondamental, en tout cas pour l'humain, d'être en lien pour pouvoir après construire sa vie. Enfin, voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Simon Latournerie, je suis accompagné de deux collègues. On travaille dans une association nationale qui lutte contre la pédocriminalité et en particulier les actes de violence sexuelle commis sur les enfants. Alors, dans nos missions, on accompagne donc les victimes, comme un bon nombre d'acteurs et d'associations consoeurs. Et peut-être qu'on se distingue parce qu'on a une grande volonté et capacité à faire de la prévention. Et je reviens effectivement sur ce que vous disiez, la nécessité de porter un message de prévention, parce qu'il s'agit évidemment d'accompagner les jeunes, les mineurs, qui sont victimes de violences sexuelles et de prostitution. Et nous, on est convaincus que le message de prévention peut éviter, évidemment, certaines situations ou les empêcher de s'installer durablement dans la vie de nos mineurs. Donc, ma question porte plutôt sur cette dimension de prévention. On l'a peu abordé, effectivement, ce n'était pas l'objet de ce rapport et de ce colloque, mais comment est-ce que vous mesurez peut-être l'importance de la prévention, à quelles étapes, par quels acteurs, et éventuellement une brève évaluation des dispositifs déjà mis en place sur la question. Merci.
Merci. Alors, je vais déjà me permettre de dire le nom de ton association, Simon, parce que c'est l'association Colosse au pied d'argile. Peut-être bien de le dire quand même. Ta question, alors, enfin, je crois, alors, mes collègues peut-être répondront aussi, compléteront cette réponse, mais une partie de la réponse va être à la fois aussi frustrante, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas une prévention spécialisée sur la prostitution qu'il faut faire. C'est une prévention beaucoup plus globale, mais on parle de cette fameuse prévention. Tout à l'heure, on a, je ne sais plus qui évoquait la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Enfin, voilà, c'est ça. Si déjà ça s'était fait, ce serait pas mal. Effet de qualité, hein. Enfin, vraiment, où on réfléchit, où on les fait réfléchir, surtout, ces jeunes-là. Après, je crois que ça en découle, en fait. Donc, à titre personnel, voilà, je ne pense pas qu'il faille faire de la prévention spécifiquement sur la prostitution. Et tu as raison de nous souligner la question de l'évaluation de cette prévention. Quels effets ça a ?
Oui, juste peut-être pour compléter à ce sujet, nous, sur les établissements, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, c'est faire intervenir les plannings familiaux au sein des institutions qui viennent faire de la sensibilisation auprès des jeunes sur la sexualité et puis surtout donc le consentement. Et moi, je suis assez sidéré à chaque fois. Les filles préparent un peu des espèces de petites boîtes à questions et d'avoir le niveau des questions et on est sur quelque chose. On se dit, elles ont 16 ans, on en est là encore. Et il y a besoin de continuer à faire ces actions de prévention, mais voilà, au sens un peu plus large. Alors, peut-être que Jérôme voulait compléter sur ce sujet, parce qu'il est lui aussi donc, au pilotage de ce sujet-là.
Merci, merci à tous, et puis merci beaucoup pour cette après-midi passionnante. Effectivement, on revient toujours sur cette question des échanges interterritoriaux. Il y a plein de choses qui font écho à ce qu'on vit, et donc c'est vrai que c'est passionnant. Et sur cette question vraiment spécifique de la prévention, moi, je voulais vraiment dire qu'effectivement, nous, on rejoint sur la métropole de Lyon totalement le constat que vous venez de faire sur le fait qu'il ne faut pas une prévention fléchée sur la prostitution, mais qu'il y a... et qu'il n'y a pas non plus nécessité de dire c'est à l'éducation nationale de s'occuper de ça, et que donc il faut essayer de mettre des moyens complémentaires. Et donc on travaille effectivement actuellement à une formation un petit peu expérimentale auprès de tous les CPEF du territoire métropolitain, qu'ils soient gérés par la métropole de Lyon ou bien qu'ils soient associatifs, pour justement intégrer parmi justement leurs ressources, leur savoir-faire en matière d'éducation à la sexualité, ces questions spécifiques sur la prostitution des mineurs. Et ça permet encore une fois aussi d'élargir l'éventail des ressources justement non spécialisées qui peuvent intervenir à la fois dans les établissements protection de l'enfance, mais aussi dans certains collèges ou certains lycées où parfois les chefs d'établissement vont faire appel justement au CPEF par rapport à leurs ressources. Et puis on essaye l'autre pan d'intervention sur cette nécessaire prévention, on rejoint complètement ça, c'est de travailler avec tout ce qui est promeneur du net. Essayer de voir un petit peu, justement, par rapport à l'ensemble de ces professionnels, justement, socio-éducatifs, qui peuvent vraiment avoir des, entre guillemets, des pédigrés professionnels très généralistes, très divers, très variés, de voir comment ils peuvent intégrer, finalement, une sensibilisation sur ces questions-là. Là non plus, pas pour, entre guillemets, entretenir un climat anxiogène ou... en quoi que ce soit, mais être en situation de repérer et d'identifier et d'informer sur ce type de situation. Voilà.
Il y a madame aussi là-bas après.
Décidément, je crois que je suis la porte-parole des parents aujourd'hui.
Et c'est bien que vous soyez là.
Il faut. Alors, je rejoins tous les discours précédents au niveau de l'information qui doit être donnée parce qu'on voit que les âges sont très jeunes. Le cas de ma fille, ça s'est passé au collège. Elle avait 12 ans et demi. Elle a bientôt 18 ans. La première histoire n'est toujours pas réglée. De la manière dont on se comportait avec moi et avec elle au commissariat, ma petite fille ne veut plus aller au commissariat porter plainte pour quoi que ce soit. Donc, d'une part, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de tous les côtés, que ce soit associatif, que ce soit les familles, les jeunes même qui sont sortis de ce milieu-là et qui pourront être une aide pour ces autres jeunes-là, mais également qu'on prenne en considération des fois la parole des parents ou la parole des enfants. Parce qu'on me traite de mère indigne, alors que j'ai cherché ma fille jusqu'à 3 heures du matin et que je viens de porter plainte. Je trouve ça moyen. Que la première histoire que j'ai portée plainte, et il y en a eu des histoires, hein, elle date quasiment de 5-6 ans et qu'elle n'est toujours pas réglée et que la personne pouvait continuer à faire de la publicité sur ma fille sur les réseaux sociaux, oui, en donnant son nom, en disant qu'il est très généreuse, qu'il est très généreux et qu'il offre un cadeau à tous ses amis. Donc je pense qu'il y a une grosse prise de conscience qui doit être faite, aussi bien au collège que de à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Et j'appuie encore ce point-là, il faut aider les parents. Parce qu'au collège, je suis partie porter plainte toute seule. J'ai fait un signalement de moi-même à l'aide sociale à l'enfance. Personne ne l'a fait. Je l'ai fait. Mais aujourd'hui, patate chaude, je suis toute seule avec ma fille. J'ai fait une demande d'internat le jour où il y a eu le problème au collège. On m'a refusé. On m'a dit que ce n'était pas la solution, qu'il fallait la ramener voir un psychologue. Je suis bien d'accord. Mais moi, je voulais la sortir de ce cadre-là. Parce que si on vient devant son collège pour lui demander à chaque fois de lui faire la même chose, et qu'on la filme, et qu'on balance ses vidéos sur les réseaux sociaux, et qu'elle reste dans ce milieu-là, même si elle va avoir un psychologue, ça ne va jamais changer. Donc, faites confiance aux parents qui sont impliqués. Et même ceux qui ne sont pas impliqués, ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, mais c'est épuisant, c'est fatigant. Des fois, on ne comprend pas forcément. Moi, j'ai vu des vidéos de ma fille. J'ai vu des publications qu'on a pu faire de ma fille. J'ai pu rentrer dans les réseaux sociaux, donc détective, je deviens détective. À chaque fois que ma fille a fugué, c'est moi qui l'ai retrouvée. J'ai fait des signalements. Je pars porter plainte. Je les retrouve à chaque fois. On ne l'a jamais ramené. Donc la seule chose que je peux demander, prenez en considération la voix des parents quand ils viennent au commissariat. Écoutez-les, ne les dénigrez pas. Et s'il n'y a rien de fait, concrètement, moi, ce que j'ai décidé de faire, vu que ça fait quasiment 5 ans que je suis dedans, je vais créer une association pour les parents. Je la créerai. Et si ça peut aider, ben, ça aidera et on se donnera la force. Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, bonjour, moi c'est Hélène Lebivic. Donc, je suis responsable de l'Amicale d'Uni dans le 93, donc sur le pôle accueil urgence, dont fait partie entre autres une mission mineure. Donc, où on intervient dans le cadre surtout judiciaire dans l'accompagnement des mineurs en situation ou en risque de l'être de prostitution. Et je voulais intervenir justement sur le côté prévention et sensibilisation
que l'on porte, entre autres, parce qu'on n'est pas les seuls acteurs, mais dans le 93, vous avez toute mon équipe qui est ici. Voilà.
Belle équipe.
Où en effet, on intervient du collège jusqu'au lycée, donc vraiment de la sixième jusqu'à la troisième, et plus particulièrement en ce moment les sixièmes et les quatrièmes pour justement tout ce qui est prévention. Et donc on est bien d'accord que c'est pas que la prostitution, encore moins sur les 12 ans, on va déjà commencer par le rapport au genre. C'est quoi une fille, c'est quoi un garçon, c'est quoi le consentement, les nudes, les réseaux sociaux, etc. Jusqu'à, en effet, arriver quand même à la prostitution. Et je reviens justement aussi sur l'importance de sensibiliser les professionnels et l'importance de, justement des infirmières et des assistantes sociales dans les établissements. Donc nous, c'est vrai qu'on souhaite d'abord sensibiliser les personnes qui interviennent dans les classes dans lesquelles nous-mêmes on va faire la prévention. Comme ça, on leur demande, nous, d'être présents pendant les préventions, qu'il y ait soit les deux, c'est encore mieux, ou au moins un des acteurs, donc soit infirmière, soit assistante sociale. On a décidé qu'il n'y ait pas le professeur, parce qu'on ne sait jamais non plus quel lien les élèves ont avec le professeur. Donc pour libérer la parole, on a décidé, nous, qu'il ne soit pas présent. Mais voilà, ça permet que nous, on arrive, on fait un one shot. Il y a plein de choses qui peuvent émerger. Donc soit pendant directement les préventions, donc ça permet à ce que l'assistante sociale ou l'infirmière scolaire puisse sortir avec un des élèves s'il ne se sent pas bien ou s'il y a un moment, il y a des choses qui émergent. Ou alors, après, une fois qu'on est parti, que justement la parole puisse être recueillie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'après nos interventions, on essaye de faire un point avec justement l'assistante sociale ou l'infirmière. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont révélées après. Donc c'est important vraiment de sensibiliser les professionnels, parce que c'est eux dans les établissements directement ont la parole de l'élève. Il faut savoir quoi en faire. Donc c'était juste pour dire que aussi pour ceux qui sont dans le 93 et qui sont en difficulté, on fait aussi du soutien auprès des professionnels. Donc faut pas hésiter à nous interpeller. Voilà.
Merci. Peut-être une dernière question ? De vous, Madame Ricard.
Bonsoir, je suis Cindy Roguet, donc moi je suis dans la gendarmerie à la section de recherche de Paris, à la division atteinte aux personnes. J'ai été formée par l'Amicale du Nid justement en 2016, donc qui m'a permis de détecter beaucoup plus de situations de personnes en situation de prostitution, justement, donc d'où la nécessité effectivement de la formation au sein des forces de l'ordre qui est indéniable. Et j'avais une remarque par rapport à ce que vous aviez dit au manque de confiance qu'il y a envers les institutions d'une manière générale par rapport aux mineurs. Une proposition comme à l'instar des dispositifs dans les hôpitaux pour les violences faites aux femmes, peut-être de délocaliser justement le dépôt de plainte pour qu'il soit fait dans un lieu neutre, dans un lieu de confiance, parce que si vous sollicitez la gendarmerie, alors dans les situations d'urgence c'est pas possible quand c'est une fugue à déclarer, des choses comme ça. Maintenant, quand c'est un dépôt de plainte ou une dénonciation d'un réseau de prostitution, de délocaliser, faire appel au réseau, il y a les intervenantes sociales en gendarmerie qui peuvent faire office de point d'entrée dans les brigades, et faire appel à des référents qui ont cette sensibilité aussi et qui ont aussi cette formation pour pouvoir mettre en confiance la victime et pouvoir peut-être déposer plainte de manière, en toute confiance. Et voilà. C'est une proposition, et justement dans les préconisations, je ne sais pas si ça a été proposé, mais effectivement de délocaliser ce dépôt de plainte, parce qu'effectivement, on voit bien, nous, quand on intervient dans les hôtels, pour ces situations-là, une défiance, de l'agressivité, de la non-coopération, ça c'est clair, et c'est vrai que quand on est face à des personnels qui ne sont pas formés, ou ça peut être problématique. Donc voilà, moi c'est vraiment la nécessité de la formation, et puis effectivement délocaliser peut-être ce dépôt de plainte quand la situation n'est pas urgente. J'insiste bien sur ce point-là. Voilà.
Merci de ces pistes. Il est 18h30 pile, donc nous avons respecté les horaires. Peut-être vous dire deux mots de fin. Déjà, vous remercier énormément d'être là, d'être présent, de la qualité de nos échanges. Remercier tous les intervenants pour la qualité aussi de vos interventions. Vraiment, on le disait en introduction, c'est qu'une étape Donc on espère que ce sera qu'une étape à tout ce travail qui sera un travail forcément de longue haleine. Juste peut-être finir sur quelque chose de positif et de constructif. La journée a été positive et constructive, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour le coup, je trouve que ce qui est très intéressant, et on le voit au niveau de nos échanges, moi qui suis psy, et donc la question du processus adolescent. Le processus adolescent, c'est quoi l'adolescence? C'est quoi? C'est de la créativité. Et je trouve qu'ils sont extraordinaires. Alors, c'est paradoxal, hein, tout ça. Mais ils sont extraordinaires dans ce qu'ils nous demandent de mettre à l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils nous demandent d'être créatifs et ils nous mettent en lien. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, ça ne m'est jamais arrivé dans ma pratique, mais j'ai réuni autour de la table tous les acteurs. Ils sont forts, nos ados. Ils sont très, très forts. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi entendre dans ce côté très paradoxal et le côté sordide et sombre de la chose, mais n'empêche qu'il y a de la créativité de l'autre côté. Donc, merci beaucoup. Tenez bon au sens winnicottien du terme. Tenez bon. Et on se retrouve pour la suite, j'espère, très bientôt. Merci beaucoup.